Montpellier, sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 10h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash info.
Bonjour, bonjour à tous. À la une ce matin, grand discours sur l'Europe. 7 ans après, Emmanuel Macron est de retour à la Sorbonne ce matin pour dresser le bilan de ses promesses de 2017 et établir sa vision pour les 5 prochaines années. Le président doit prendre la parole à partir de 11h. Une déclaration qui sera scrutée de près à 1 mois et demi des élections européennes. Scrutin sur lequel le chef de l'État entend bien peser alors que son parti est largement devancé dans les sondages par le Rassemblement National. La paralysie a été évitée, mais de nombreux avions resteront quand même cloué au sol. Aujourd'hui, un accord a été trouvé hier avec les syndicats de contrôleurs aériens, mais trop tard pour éviter les perturbations. Conséquence, 3 vols sur 4 sont supprimés au départ ou à l'arrivée de Paris-Orly. 55% à Roissy-Charles de Gaulle, près de la moitié sur tous les autres aéroports du pays. Bonne nouvelle, en revanche, pour le pont de l'Ascension, le préavis déposé a été levé. Dans l'actualité, également pas de blessés, mais le drame a sans doute été frôlé de près. Les ailes du Moulin Rouge se sont décrochées dans la nuit à Paris pour une raison encore indéterminée. 3 lettres de l'enseigne du célèbre cabaret parisien ont aussi été emportées. Le bâtiment n'est pas menacé d'effondrement, selon les pompiers qui précisent que la zone est sécurisée. Les Français ne sont pas prêts à affronter les crises climatiques. Selon la Croix-Rouge, l'ONG a publié un rapport ce matin dans lequel elle préconise un sac d'urgence pour chaque Français en cas d'évacuation. Elle recommande aussi la mise en place d'un plan grand chaud ou encore une meilleure formation aux gestes de premier secours. Seuls 40% des Français y sont formés, c'est trop peu d'après la Croix-Rouge qui souligne que cette part atteint 95% en Norvège et 80% en Allemagne. Et puis un mot de foot, le PSG a battu Lorient 4-1 hier soir en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, mais va devoir encore patienter au moins jusqu'à ce week-end pour être sacré champion, et ce en raison de la victoire de Monaco 1-0 face à Lille, les Monégasques qui confortent leur place de dauphin. Très bonne matinée à tous.
Radio Aviva, à Montpellier, Vendargues et Courmont-Terral, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Hier et aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir.
Jean-Pierre Loubet, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes intervenant en Master 2 d'histoire militaire, je crois, et ouais. Études de la défense.
Études de défense, voilà.
Voilà, ce sont des noms qui se compliquent, hein, qui se complexifient. À l'université donc Paul-Valéry à Montpellier, l'université 3, et que vous êtes aussi donc professeur de sciences économiques au lycée Joffre.
Voilà.
Alors, je sais qu'aujourd'hui on ne dit plus sciences économiques, mais bon, je crois que le titre veut dire quelque chose et situe bien donc la chose. Alors, on va faire le point, évidemment, sur l'Ukraine. Mmh. L'Ukraine, après ce fameux attentat donc, qu'a subi la capitale de la Russie, Moscou. Alors, peut-être on va revenir dans un premier temps là-dessus,
oui,
et on
oui.
va voir toutes les conséquences que ça voilà. a engendré.
Voilà, voilà. Donc, effectivement, le 22 mars dernier, là, on a appris cet attentat à Moscou, donc au théâtre Crocus de Moscou. Alors, un attentat extrêmement meurtrier. Là, bon, le nombre de victimes, d'ailleurs, a augmenté depuis les premiers bilans qui avaient été réalisés. On est maintenant à 145 morts et plus de 500 blessés au cours de cette attaque. Au début, on a annoncé une centaine de morts.
Oui, une centaine de morts, voilà. Et on avait annoncé même dans les 200 blessés, vous voyez.
Voilà, voilà.
Donc, je pense que depuis, évidemment, ou hélas, on a dû se compter différemment.
Voilà, bah déjà, en plus, il y a des cadavres qu'on a découverts entre-temps aussi, parce que ça a été finalement comme au Bataclan. Il y avait des morts finalement au Bataclan, il y a des morts dans des petites salles annexes aussi, on a retrouvé des corps un peu partout après, là au Crocus ça a été pareil, et évidemment plus dans l'intervalle aussi il y a des blessés qui n'ont pas survécu, qui ont succombé à leurs blessures dans l'intervalle.
Alors attentat quand même énorme,
oui.
Gigantesque, très bien préparé quand même.
Certainement oui.
Parce que ça, je crois que le monde entier était sidéré de la rapidité Et de cet attentat, voilà. Alors, voilà. Il a été programmé par qui ?
Alors voilà, ça a été le. Il y a plusieurs débats en fait au niveau de l'attaque. Bon, c'est pas tellement la peine de revenir dans le détail. Déjà, nous Français, on connaît parce que c'est une copie conforme pratiquement du Bataclan. C'est un parallèle qu'on pourrait faire à plusieurs reprises. Mais effectivement, au niveau de l'organisation et puis des répercussions diplomatiques que ça, c'est là que le débat est intéressant. Alors, dès que l'attentat a eu lieu, aussitôt les autorités de Moscou ont incriminé les Ukrainiens. Alors, soit des Ukrainiens directement eux-mêmes, et ensuite un attentat appuyé par les Ukrainiens. Pourquoi cette nuance ? C'est qu'effectivement, très vite, on s'est rendu compte qu'un attentat organisé par les Ukrainiens et réalisé par les Ukrainiens ne tenait pas la route. Surtout qu'en Russie, on a arrêté donc quatre Tadjiks à l'ouest de Moscou. Et on ne pouvait pas décemment dire qu'ils sont ukrainiens, puisque la police russe elle-même disait qu'ils étaient Tadjiks. Donc, d'une part, il y a eu cette arrestation réalisée par la police russe. D'autre part, il y a eu une revendication.
Voilà. Ce que j'allais dire, l'État islamiste l'a quand même revendiqué, cet attentat.
Voilà, alors exactement ce qu'on appelle l'État islamique au Khorassan. Le Khorassan, en fait, ça regroupe une bonne partie de l'ex-Asie centrale soviétique, qu'une vieille appellation des premiers temps de l'islam en Asie centrale. Et donc, cette organisation État islamique, il y a l'État islamique, en fait, à plusieurs branches. Il est né en Syrie, en Irak, on le sait, il y a plus de 10 ans maintenant. Bon, le pays dans lequel il est moribond parce qu'il a été traqué, il n'est pas éradiqué, d'ailleurs, petite parenthèse, en Syrie, en Irak, l'État islamique. Il y a d'ailleurs toujours des frappes sur les positions de l'État islamique dans ces deux pays-là. D'ailleurs, pour faire un rapide parallèle avec l'actualité du week-end du 15 avril, enfin du 13-14 avril, si on dit que les Britanniques, les Français ont intercepté une partie des drones iraniens qui visaient Israël, c'est que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont toujours des bases dans la région pour frapper l'État islamique, en fait. On a utilisé contre l'Iran des moyens qui étaient destinés et qui sont toujours destinés à la lutte contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Bon, donc l'État islamique a des bases, des filiales, un peu partout, donc en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Afrique, voilà. Donc il est présent un peu partout. C'est donc cet État islamique qui, de toute évidence, a organisé et perpétré cet attentat, certainement en confiant l'exécution à plusieurs ressortissants d'Asie centrale, dont peut-être ces Tadjiks. Je dis peut-être, rien ne prouve que les Tadjiks arrêtés par la police russe soient vraiment les exécutants et les assassins de ce théâtre. Ou alors qu'ils soient les seuls. On sait comment la police russe a pu réaliser ce genre d'enquête auparavant. En 99, lorsque la deuxième guerre de Tchétchénie est déclenchée, il y a déjà eu des attentats à Moscou, et selon toute vraisemblance, ces attentats, ce qu'on appelle les attentats sous false flag, sous fausse bannière, donc des attentats probablement organisés par le FSB de Vladimir Poutine, et qu'on a attribué ensuite aux Tchétchènes pour avoir un prétexte pour déclencher cette deuxième guerre de Tchétchénie. Là, en ce qui concerne ces attentats de Moscou, il est très improbable qu'ils aient organisé par le pouvoir moscovite, là, il n'y aurait pas du tout intérêt. Il est tout aussi improbable qu'ils aient organisé par les Ukrainiens, qui n'auraient encore moins intérêt, c'est évident. Par contre, effectivement, c'est l'État islamique qui l'a organisé, effectivement. Simplement, par contre, on ne connaît pas tous les exécutants, tous les organisateurs de l'attentat, c'est évident.
Par contre, Vladimir Poutine a mis quand même un certain temps à reconnaître,
et oui,
à imputer l'attentat alors qu'il était revendiqué.
Et voilà, et pour Poutine, effectivement, c'est un drame, je dirais presque personnel, parce qu'en fait, le contrat que Poutine a passé avec le peuple russe depuis 25 ans, c'est, bon, vous n'aurez pas la liberté, vous perdrez les quelques bribes de démocratie qui restaient de l'époque Yeltsin, par contre, vous aurez une certaine forme de prospérité économique et la sécurité. Et là, justement, à partir de la Russie, s'il connaît les attentats de masse, comme on en connaît nous en Occident, cet Occident décadent que stigmatise Poutine, ben finalement c'est une rupture du contrat qu'il a passé avec son peuple. Et donc là, effectivement, il est très mal, il ne l'a pas reconnu dans un premier temps, on va en reparler certainement après, mais donc il attribue ça aux Ukrainiens, ce qui ne tient pas la route de 2 minutes, et en plus, après, donc il est obligé effectivement de mentir à son peuple, parce que ce contrat en question n'a pas été respecté.
D'ailleurs, on a senti le flottement au niveau de l'état-major russe.
Voilà.
On ne savait pas, pendant un certain temps, ils n'ont pas su comment se positionner.
Voilà.
Alors écoutez, je vous propose une pause musicale, mm-hmm, et puis nous reprenons tout de suite la suite. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? Parce que les conséquences sont quand même importantes.
Oui.
Drink to the dream.
Jean-Pierre Loubet, là nous sommes en train, donc nous venons de disserter sur l'attentat qui a frappé la capitale de la Russie, Moscou, avec donc l'État islamique qui revendique. Mm-hmm. Et comme vous me disiez, c'est que les Américains avaient prévenu et la Russie n'a pas entendu ou n'a pas voulu entendre
ce
qu'avaient à dire les États-Unis
là-dessus. Non seulement elle n'a pas voulu entendre, mais elle s'est moquée. C'est ça en plus le pire. Là encore, quand je dis dans la rupture du contrat qui est implicite qu'il y avait entre Poutine et le peuple russe, c'est que quelques jours avant l'attentat, il y a un discours de Poutine. C'est pas un obscur sous-fonctionnaire qui se moque sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Il y a un discours officiel de Poutine où il se moque effectivement des mises en garde américaines. Donc ça faisait plusieurs semaines que les Américains mettaient en garde les Russes en leur disant « on a des informations convergentes, sérieuses, sur un attentat qui serait bientôt organisé à Moscou par des islamistes, il n'y avait aucun doute. Les Russes se sont moqués, l'attentat a eu lieu. Donc là, Poutine est coincé. D'une part, pour reprendre mon expression, là, il y a une rupture du contrat qu'il a passé avec son peuple. Et puis en plus, ça fait quand même maintenant 2 ans que cette guerre terrible est commencée en Ukraine. Il est évident désormais, si jamais on avait un doute, que la Russie s'est trompée d'ennemi. En attaquant l'Ukraine, avec tout le déluge de crimes, de forfaitures que ça a entraîné, en plus, justement, la Russie ne veut pas voir effectivement que l'ennemi qui la menace le plus, c'est le même ennemi que les Européens, les Israéliens, les Américains, c'est-à-dire la menace islamiste.
Voilà, mais hélas, le front ukrainien ne résiste pas beaucoup.
Eh bien oui. Alors, paradoxalement, il y a quand même quelques points positifs pour les Ukrainiens qu'il ne faut pas oublier. C'est que depuis plusieurs mois, en fait, l'Ukraine remporte des succès, mais des succès, j'irai indirects. Un, en mer Noire, elle a réalisé des opérations absolument remarquables qui ont permis de couler plusieurs bateaux russes. Ce qui fait que même si l'Ukraine n'a pratiquement plus de marine, l'Ukraine a un relatif contrôle de la mer Noire. C'est intéressant d'ailleurs en termes d'analyse militaire de se rendre compte que dans une guerre moderne, compte tenu maintenant des moyens de projection de force que l'on a, il n'est plus nécessaire de tenir la mer, comme on le faisait au XXe siècle avec des navires de surface. Un simple contrôle indirect, c'est-à-dire une interdiction de la mer par des moyens côtiers, suffisent pour avoir un contrôle relatif de cette mer.
Mais non, elle recule quand même, le front recule.
Alors attendez, je vais encore vous donner une deuxième bonne nouvelle. Pour l'Ukraine. Au niveau aérien, depuis 2 mois, les Ukrainiens abattent les avions russes par dizaines. Et les avions russes, ce n'est pas des avions obscurs, c'est des Sukhoi 34, des Sukhoi 35, des Sukhoi 34, c'est soit des bombardiers tactiques modernes de très bonne qualité, puis très cher, qui est très récent, soit des chasseurs pareils relativement récent. Et là, l'Ukraine, depuis plusieurs mois, a mis en place méthodiquement un point d'élimination des défenses antiaériennes russes qui est très efficace. Le problème, et sur ce point-là, là je rejoins ce que vous disiez, c'est que pour arriver à ce résultat-là, l'Ukraine a des moyens antiaériens qui sont limités, elle ne peut pas faire face à toutes les menaces. Et les Russes l'ont bien compris, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur Kharkiv de manière répétée depuis des semaines.
Absolument.
Pour obliger la défense antiaérienne ukrainienne à se concentrer sur Kharkiv et à ne plus pouvoir abattre les bombardiers comme ils le faisaient. Donc vous voyez ce que je disais sur l'analyse, sur la défaite de l'armée de l'air russe, elle était réelle en février et en mars. Depuis le début avril, en fait, qu'est-ce qu'on observe? C'est comme la défense antiaérienne ukrainienne, qui est de plus en plus rabougrie, se concentre pour protéger les grandes villes, sur le front, on voit maintenant à l'inverse des Sukhoi 25 russes qui se promènent quasiment en liberté.
Alors, en plus, quand même, l'aide attendue, l'aide promise, alors qu'elle soit de la part des USA ou qu'elle soit de la part des Européens, n'arrive pas à l'Ukraine.
Et non. Alors du côté américain, c'est clair, parce qu'il y a un blocage à la Chambre des représentants, par les Républicains aiguillonnés par Trump, qui explique que le contribuable américain a plus intérêt à défendre la frontière avec le Mexique, à aider un gouvernement ukrainien corrompu, etc. Bon, là aussi, il faudra voir d'ailleurs les répercussions qu'aura l'attaque iranienne sur Israël. C'est qu'en fait, Biden a préparé un gros paquet d'aide qui était à la fois destiné à l'Ukraine, à Taïwan et à Israël, et qui est bloqué dans son ensemble par les Républicains. Cette attaque de l'Iran sur Israël pourrait débloquer, l'avenir nous le dira, peut-être ce plan d'aide.
Peut-être, voilà. Disons. Mais c'est vrai qu'il y a une opinion qui se retourne un petit peu, où les gens sont, alors je ne dis pas dans un Ukraine machine, mais presque un petit peu en ce moment, où l'Ukraine,
en France aussi,
on le sent vraiment. Mm-hmm. Alors, moi j'aimerais qu'on termine un peu sur la France aussi,
et
notre ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, qui a eu quelques problèmes, je crois.
Alors là, il y a eu effectivement, alors on mesure un peu les incohérences parfois de la politique étrangère française, qu'on y repense depuis le début de la guerre, au début de la guerre, on a eu le président Macron qui a dit qu'il fallait pas humilier la Russie, donc qui était la position la moins pro-ukrainienne des dirigeants occidentaux. Oui. Là, au début de l'année, on a eu des déclarations où on était passé à un extrême inverse, où on envisageait l'engagement de troupes françaises ou européennes ou otaniennes au sol.
Voilà.
C'était plus effectivement une aide indirecte, ou même comme on l'a envisagé, une opération de fermeture du ciel, c'est-à-dire au moins d'engager l'aviation occidentale pour fermer le ciel ukrainien à l'aviation russe. Donc là, effectivement, le président Macron a envisagé l'engagement de troupes au sol. Bon, donc on voit qu'on est passé un peu extrême à l'autre. Et dans l'intervalle, qu'est-ce qu'on a ? On a une aide militaire française matérielle qui est très faible. L'Institut de Kiel, qui est un des instituts les plus sérieux en la matière, stigmatise en quelque sorte régulièrement la faiblesse de cette aide. On aurait le temps pour détailler la méthode de calcul française, d'ailleurs, qui n'est pas très juste dans le calcul de l'aide attribuée à l'Ukraine. Et puis en même temps, au moment où, quelques semaines après que le président Macron, justement, ait lancé cet avertissement sur l'engagement de troupes au sol, on a voulu lancer une initiative de dialogue avec la Russie, juste au moment où, d'une part, on s'était fait repérer par les Russes avec cette offre de troupes au sol, et au moment de l'attentat de Moscou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement russe a saisi la balle au bon pour nous allumer, si je peux être un peu familier.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et même d'ailleurs pour attribuer l'attentat de Moscou à des Ukrainiens appuyés par les services secrets français.
Ça a été dit vraiment.
Voilà, par Shoigu notamment.
Voilà, donc une politique française un petit peu chaotique.
Voilà, qui
va
de
du plus au moins et qui manque de visibilité. Alors écoutez, Jean-Pierre Loubet, on vous retrouvera prochainement parce que je crois qu'il y aura encore et encore beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine. Je crois qu'hélas, ce conflit n'est pas terminé et on va voir peut-être la prochaine fois les répercussions du problème Iran-Israël sur l'Ukraine. Mm-hmm. Parce que peut-être que tout est lié.
Tout à fait.
Ça, on va le savoir dans quelques jours peut-être. Mm-hmm. Et à ce moment-là, vous reviendrez nous donner votre opinion.
Avec
merci
plaisir.
Beaucoup. À très bientôt, Jean-Pierre Loubet.
Au revoir, Martine.
Aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed, and this is your moment. Hesitation.
Écoutez Radio Aviva partout, tout le temps. Sur la route, à la maison ou au travail, sur notre site radio-aviva.com, sur l'application gratuite pour smartphones et tablettes, sur les box, les télés et enceintes connectées en demandant « Je veux écouter Radio Aviva ». Et désormais, profitez aussi de Radio Aviva en DAB+, à Nîmes. La radio numérique disponible sur la nouvelle génération de récepteurs radio et dans votre voiture.
Alors voilà, il y a quelques temps, j'avais plus goût à rien. J'irais les dents, l'air abattu, je répétais tout va bien. Je mettais des plans, lâchais des vues, j'oubliais les lendemains. Je fuyais les gens, une inconnue, mais j'avais besoin de quelqu'un. Pour te trouver, je suivais le vent comme rendu au chagrin. Désabusé, le cœur absent et dépourvu de soins. Ça faisait longtemps que je souriais plus, j'avais même vu ma fin. Mais je crois qu'avant j'étais perdu, t'es devenu mon chemin. Mais t'étais où toi? Pendant tout ce temps, comme je m'y attendais pas. Oh non. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi, et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut. Réveille sonne, je te vois encore, toi et ton beau visage. Y'a plus personne, je suis sous mes draps, je me refais les images. Je m'illusionne du son de ta voix, j'en fais un long métrage. Y'a ta couronne qui t'attend là, même si j'ai pas assez l'âge. Tes mots résonnent même dans mes pas, je suis sur un nuage. Je suis un peu conne, je m'en remets pas, comme un long voyage. J'ai bu trop de rhum, mais à coup le pas, j'ai même perdu le langage. Tu sais, je frissonne depuis cette fois, en plus j'ai pas les chauffages. Mais t'étais où toi? Je connais pas ton nom, comme je m'y attendais pas. Oh non. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi, et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut. Je sais pas trop comment t'aborder, mais j'avoue que ça me fait un truc. Depuis tout à l'heure, je te regarde parler, alors je sais, c'est un peu brut, mais j'ai envie de tout envoyer valser et qu'on parte loin, très loin. Je crois que j'ai même envie de t'embrasser et de recommencer demain après-demain. J'allais pas bien. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi, et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Et je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi, et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut. Vers le haut.
Radio Aviva à Montpellier, Carnon et Saint-Gély-du-Fesc, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com. We'll be right back.
éclectique, Radio Aviva. Xavier Nataf.
Retrouvez-moi tous les jours à 14h pour 30 minutes coups humains de recommandations culturelles, de portraits au long cours, de collages sonores et de musique éclectique.
Aviva. Radio Aviva, le Mac de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous. Il va être question de santé et de soins aujourd'hui. Et nous savons tous que ça intéresse chacun de nous. Jean-François Bouscarin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'URTS, donc l'Union régionale des infirmiers.
Exactement.
Vous avez une activité débordante à la fois dans la région et puis auprès de la Fédération nationale des infirmiers. Alors, les métiers changent dans ce domaine. Vous avez vécu ça, cette évolution des métiers ?
Oui, l'évolution des métiers est naturelle, comme tous les métiers. Il faut qu'on soit évidemment en équation avec à la fois la demande, une demande grandissante dans notre région, à Montpellier aussi en particulier, oui. Nombre de personnes âgées sur notre territoire et nombre de pathologies chroniques. Et puis au final, si on regarde dans le rétroviseur, il y a 20 ans, on restait beaucoup à l'hôpital. La durée moyenne de séjour n'a fait que baisser et donc les soins sont aujourd'hui à domicile, d'où la mise en lumière des infirmiers libéraux aujourd'hui, mais aussi des autres professionnels de santé.
Bien sûr, nous sommes une région aussi qui attire beaucoup de retraités.
C'est exact, mais c'est une bonne chose pour l'économie de notre région.
Absolument. Alors, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez le rôle de l'URTS, Jean-François Bouscarin, puisque vous la présidez, depuis déjà quelques mandats.
Ben, c'est des modalités en fait de changement. La santé a été énormément pilotée pendant des décennies au niveau national,
ouais.
Et il y a eu la, je dirais, déclinaison qui sont les agences régionales de santé, grosso modo une préfecture santé dans notre région, grande région aujourd'hui Occitanie. Dans les années 2009, loi Bachelot, et donc il fallait que naturellement cette institution ait des interlocuteurs fiables de la profession d'infirmier, et donc la création des unions régionales des professionnels de santé. Alors il y en a 10 qui représentent tous les professionnels de santé de terrain.
Donc ça, c'est important d'arriver justement à ajuster les décisions et l'organisation avec la réalité du terrain. C'était l'objectif des ARS finalement.
Exactement. L'ARS, c'est le S de la santé. H, oui. Au départ, ARH ne s'occupait que des hôpitaux. Aujourd'hui, il s'occupe de la totalité de santé pour qu'en fait, il y ait une cohérence dans les parcours et dans la réflexion de l'institution pour que ce soit moins pyramidal, mais beaucoup plus transversal et démocratique. Donc, notre URPS donne des avis sur ce qui se fait ou évidemment en donnant des avis négatifs quand ça ne va pas.
Bien sûr. Alors, les infirmiers, on a des infirmiers hospitaliers, il est question des infirmiers dans le privé.
Oui, alors libéraux, c'est ceux qui, c'est le dernier kilomètre, c'est ceux qui viennent chez vous, qui vous prodiguent les soins sur ordonnance, à domicile, le trois quarts du temps.
Donc, très proche des patients, on a vu notamment pendant le Covid leur rôle.
Oui.
Contre l'isolement, pour les soins, le maintien des soins. Combien d'infirmiers libéraux nous comptons là dans la région?
Vous faites bien de parler de proximité parce qu'en fait, aujourd'hui, vous rappelez-vous, on parle de manière permanente de désertification médicale.
Ouais.
Et là, ce n'est pas le cas de notre profession. C'est une chance pour embrasser, je dirais, le tsunami qui arrive de nombre de personnes âgées et de pathologies chroniques,
ouais.
Puisqu'on est bien répartis sur la totalité du territoire. On est nombreux. On assure quand même la continuité des soins. Donc, c'est 7 jours sur 7, 365. Donc, c'est un atout. Et effectivement, on assure tous les soins avec beaucoup de technicité à domicile. Donc, voilà l'intérêt, en tout cas, de notre profession dans l'écosystème de santé.
Donc c'est important, comme vous le disiez, c'est une belle image, le dernier kilomètre, on va vers les gens, on voit la situation et sanitaire et médicale, finalement, quelquefois sociale. Est-ce qu'il vous arrive d'être interpellé socialement quand vous allez voir des patients qui sont dans des conditions précaires, etc.?
Alors, exactement, et d'ailleurs, l'actuel ministre de la Santé, M. Valletoux, était anciennement député, a fait une loi qui est la notion d'infirmier référent, comme l'Organisation mondiale de la santé le demande, c'est que chaque patient se dote d'un référent santé pour l'accompagner dans son parcours. Donc vous imaginez bien que les infirmiers au domicile se retrouvent dans des situations, en particulier chez des patients vulnérables, précaires, qu'ils doivent accompagner, y compris sur le versus social. Bien et sûr. D'où l'intérêt de la notion d'infirmier référent. Je ne vous cache pas qu'on attend encore les décrets d'application et, je dirais, le périmètre interventionnel. Mais je pense que c'est un atout dans le système de soins.
Ça sera sécurisant pour le patient déjà, hein, qui saura que quelqu'un est en charge de cela et qui connaît son cas.
Ben, écoutez, très honnêtement, imaginez, fermez les yeux un instant, vous avez la possibilité de joindre 7 jours sur 7 un professionnel de santé bien formé, qui connaît le système de soins, qui peut, si vous n'êtes plus dans le système de soins, vous le réintégrer ou en tout cas donner l'alerte si votre état de santé se dégrade. Imaginez,
exactement.
C'était véritablement un entout. Et donc, on prend à ce que l'infirmier référent rentre totalement dans le système de soins.
C'est un besoin fondamental, hein, et c'est important que justement les infirmiers libéraux puissent s'atteler à cela. Ils sont plus de 10 000, 12 000 ?
Alors on est quand même 15 000 en Occitanie, 000. Vous imaginez la force de frappe. Il y a aujourd'hui plus d'infirmiers libéraux exerçant en ville que d'infirmiers exerçant par exemple dans des établissements privés. Et évidemment notre région est fortement dotée d'établissements privés, donc vous voyez le rapport de force.
Ouais.
Aujourd'hui
ouais.
Le plus grand hôpital de France est à la maison.
Oui c'est ça. Et c'est important pour les gens âgés, notamment, ou malades, parce qu'ils restent dans leur environnement habituel. C'est tout à fait majeur. Alors, j'aimerais qu'on dise un petit mot de la formation. C'est facile, de façon générale, cet accès au métier infirmier.
Ben, heureusement que ce n'est pas facile, parce qu'on est un diplôme qui est très facilement exportable sur d'autres pays. Donc, c'est le témoin que notre formation est robuste. C'est 3 ans et demi, 4 ans.
Ouais. Un petit concours d'entrée.
Avec un concours d'entrée, voilà. Avec une sélection, avec beaucoup de professionnels, malheureusement, qui, dès la première année, quittent le métier, parce qu'en fait, aujourd'hui, ben, notre métier reste pénible.
Oui.
Si on assure 7 jours sur 7, ça veut dire qu'on travaille le week-end, ça veut dire qu'on travaille la nuit, tôt et tard. C'est vrai que parfois, notre métier, c'est une réflexion qu'il faudra réfléchir en matière d'attractivité de notre métier, un peu à contre-pied, je dirais, d'une envie aujourd'hui de moins travailler, de privilégier la partie personnelle.
C'est un peu à contre-courant. On pourrait imaginer aussi un réseau de garde par quartier ou des relais.
Alors, c'est ce qui est fait, les infirmières libérales, aujourd'hui, elles sont à peu près 4
elles
par cabinet,
ouais.
Et on se relaie, évidemment, pour avoir des moments de repos, parce que la qualité d'un soin passe aussi par des yeux bien éclairés et un cerveau tout à fait net.
Tout à fait clair, et puis pas être trop fatigué non plus. Alors, dans les rôles que vous jouez auprès des patients, on va voir ça tout à l'heure, après la pause musicale, je suis sûre qu'il y a le soin, on voit bien le soin, les piqûres, ou alors une toilette élaborée, s'il y a un pansement à refaire, etc. On voit un peu moins d'autres facteurs comme l'éducation à la santé ou l'aspect alimentation.
Oui, vous avez tout à fait raison. You love.
Jean-François Bouscarin, vous nous avez éclairé sur le rôle et l'importance de ce maillage d'infirmiers qui sont des infirmiers au niveau individuel, qui ne sont pas en hôpital ni en clinique. Et on a bien vu que c'était un maillage extrêmement dense du territoire. Et donc, vous soignez, le soin, bien sûr, on imagine bien. Si je comprends bien, si la loi évolue, l'infirmier n'aura bien sûr la prescription, mais on pourra aussi l'appeler en cas de problème. C'est comme ça que ça va évoluer ?
Oui, alors il faut que ça évolue. Hein. Très honnêtement, je peux vous donner un exemple. Hein. Aujourd'hui, il y a pas plus tard que ce week-end, le Premier ministre et M. Valletoux annonçaient l'accès direct pour les kinésithérapeutes pour un certain nombre de soins. Oui. Pourquoi ? Parce que je me rappelle très bien, par exemple, les propos, je crois, au Sénat de l'ancien ministre de la Santé qui disait, mais enfin, quand vous avez mal à l'épaule, il faut être logique, vous ne passez pas par la case du médecin. Ouais. Ça ne veut pas dire que le médecin ne reste pas référent et ça ne veut pas dire que le médecin ne sera pas informé de l'état de santé de son patient. Néanmoins, si on veut fluidifier les parcours, eh ben par exemple, sur la plaie, aujourd'hui, il faut être absolument les yeux ouverts. Les professionnels qui sont les plus habilités à soigner une plaie, ce sont les infirmiers. Donc, si vous avez une plaie ou une petite brûlure du fait, on arrive à la période estivale du barbecue, c'est un samedi, autant aller voir son infirmier qui prendra les premières mesures de soins sans forcément aller à l'hôpital et encombrer l'hôpital, par exemple.
Ou engorger les urgences ou alors engorger un cabinet médical qui sont déjà très plein. Donc, vous portez ces soins. Vous avez effectivement un rôle d'éducation à la santé, je suppose. Expliquer aux patients sa pathologie, comment la gérer.
Exactement. Quand vous rentrez dans un domicile, bon, c'est le lieu un peu secret de chacun, mais où vous ouvrez aux professionnels de santé, vous et votre famille, et vous avez du coup une réflexion globale de où est-ce que vous en êtes, par exemple, de manière familiale, de la vaccination. Imaginez très bien une personne âgée que vous êtes dans l'interrogatoire, effectivement, et la personne de grand âge vient le week-end. Il est peut-être bien que, du coup, pour la protéger, la totalité de la famille, y compris les petits-enfants, soit vaccinée. Et donc, en fait, c'est une étude un peu au cas par cas de la bonne prévention dans le cadre du domicile.
C'est ça, avec une prise en compte du contexte
bien
précis
sûr, on
de
est
chaque
tous,
patient.
Toute la population qui travaille aujourd'hui à tête dans le guidon, elle lève la tête avec un professionnel de santé, d'où le fait du bilan prévention que le président de la République demande, et on fait un point d'étape, où j'en suis.
Donc prévention par une bonne alimentation, prévention tout court par du dépistage, par tout ça. Je suppose que vous avez un rôle de sensibilisation là-dessus aussi.
Alors là, il va être au-delà du rôle de sensibilisation, puisqu'on va accompagner à faire ce fameux bilan, qui va être en quelque part, pourquoi ? Parce qu'en fait, la santé aujourd'hui, la santé à la française, c'est soigner. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il faut prévenir. Donc en fait, il faut à un moment donné, si on veut pas tomber en panne, il faut faire un point. Et il faut dire, voilà, je suis pas à jour de ça. Ça fonctionne mal. Mais allez, je vais faire un parallèle un peu grossier. On le fait pour les voitures, je vois pas pourquoi on le ferait pas pour nous.
L'infirmier libéral sera en charge de ce point.
Bien sûr.
Voilà, ça c'est important. On parle énormément aussi de fin de vie. Est-ce que s'il est question que vous ayez un rôle dans ce domaine-là, comment ça va se passer ?
Alors, oui, on parle de fin de vie, on parle, c'est un sujet qui va être porté par la loi, c'est un sujet, je dirais, porté directement par le président de la République. Moi, j'ai envie de vous dire, là, on va très très vite sur une décision qui est quand même une décision importante pour la totalité des Français. Je pense que c'est des réflexions qui se prennent pas à la légère, pas qu'être dans l'hémicycle, il faudra que nos députés, évidemment, discutent le projet de loi.
Avec les professionnels,
ce projet de loi est déjà discutable, y compris par les spécialistes du soin palliatif. Je crois que très honnêtement, d'abord, proposons un soin palliatif de calme et volupté à la population avant de leur proposer la mort. En tout cas, pour l'instant, c'est ma posture personnelle.
Bien sûr,
mais
bien
je
sûr,
souhaite vous la faire partager.
C'est
bien
logique,
entendu.
Bien entendu. On essaye d'abord d'apaiser, on essaye de voir comment le patient peut vivre avec cette pathologie, et quitte à aller, même si on sait que il va en décéder, mais tranquillement, quoi.
Oui, c'est un projet de société. Et un projet de société, ça, je vous le dis, là, les temps qui ont été posés sont absolument courts pour prendre une décision la plus éclairée. Et en médecine, vous le savez, on compte sur le temps long pour prendre une bonne décision.
Ouais,
c'est surtout une décision collégiale.
Oui, c'est vrai. Alors, vous risquez d'avoir un rôle sur les certificats de décès aussi. Tout ça, ça se forme, il faut être formé. Comment vous préparez le métier ?
Alors ça, c'est parti. Ça fonctionne très bien puisque depuis le 1er janvier, les infirmiers peuvent être effecteurs de certificats de décès.
Oui.
Mais pourquoi ? Parce que très honnêtement, l'agence nous l'a dit, hein, les week-ends, on ne trouve pas. Donc il y a des personnes qui restent à domicile, décédées, oui, avec leur famille. Vous imaginez les souffrances, 17, 24 heures.
Bien sûr.
Là, on va réduire ce temps-là puisque, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, on est nombreux, on est disponible. Et donc, 1500 infirmiers en région sont éligibles. 400 sont déjà formés, donc à l'heure où je vous parle, il y en a qui sont en formation et qui donc ce week-end vont déjà être effecteurs pour s'en rendre auprès des familles. Et là, vous voyez, on rentre de l'humanité en fait,
oui,
à la chose. C'est pas, nous on fait pas les certificats de décès pour faire les certificats de décès, on fait parce qu'on est en proximité, proche des gens, souvent on connaît les quartiers,
les familles.
Et ben, allez,
sûr,
rendons
bien
un peu d'humanité là où ça fonctionne pas. Vous voyez, des
bien
choses
sûr
un peu pragmatiques.
C'est tout à fait important, je crois que c'est aussi une plus-value pour les familles et pour les patients de rester avec un infirmier ou une infirmière qu'ils connaissent, qui connaît le contexte, etc. Donc, des évolutions importantes, vous en attendez d'autres dans cette profession ?
Ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, très honnêtement, l'accès direct sur un certain nombre,
oui,
de soins. Et François Braun, ancien ministre, oui, a ouvert, alors vous avez compris que j'en ai cité beaucoup,
oui, oui,
on en a
sûr
eu beaucoup en peu
il
de temps.
Il y a beaucoup de gens qui
ça,
se sont
une,
succédés.
C'est une problématique, oui, bien entendu, pour suivre les dossiers. Il a dit, c'était quelqu'un d'extrêmement pragmatique, très honnêtement, aujourd'hui, donc, notre profession est la première à retravailler le cadre de son décret de compétences pour l'élargir, parce qu'au final, on est une profession qui est sous-utilisée au regard de ses compétences. Et quand on voit les enjeux de santé qui arrivent, ben évidemment, il faut que notre, je dirais, profession soit exploitée dans tout son art.
Oui, alors à la fois, Jean-François Bouscarin, je vois que ça avance finalement, ça avance, il y a des pas qui sont faits pour à la fois mieux accompagner les gens à domicile et aussi responsabiliser les professions libérales, les professions médicales dans la vôtre, et aussi donner de l'information, créer un peu de fluidité à travers tout ce soin jusqu'au décès, finalement.
Exactement, c'est un continuum. Et vous avez dit responsabilité.
Oui.
Ben voilà, notre profession, elle est prête à prendre plus de responsabilités dans les années à venir. Et il suffit qu'en fait, il faut un peu de courage politique pour un peu casser les murs. Effectivement, que notre profession soit pleine et entière dans un très beau système de santé. Parce que derrière ça, en fait, il se cache quand même quelque chose d'assez important. C'est qu'aujourd'hui, on a un système de par solidarité.
Oui,
et il faut
sûr
qu'on ait solidarité, qualité, qu'on puisse le préserver.
Pour le préserver. On est obligé d'être et solidaires et tous responsables. Donc, c'est tout à fait important. Merci Jean-François Bouscarène.
Je vous rappelle
que vous êtes président de l'Union des infirmiers libéraux d'Occitanie, l'URTS. Merci infiniment.
Merci.
C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com. Continuez de l'appeler, mais qu'est-ce qu'il cachait ?
surprise. Elle est tout de suite venue m'avouer. J'étais pas la première conne avec qui s'amuser pendant tout ce temps. J'étais dans le faux, j'étais dans le faux. Ce qui m'a toujours dérangé et que rarement soir, je pouvais le capter, mais je m'en doutais. Mais j'ai fermé. Ma honte m'accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots. Ma honte m'accro. Je ne savais pas que je ne le connaissais pas. Il avait les
Nelson Mandela's free.